On va se tourner dans le prophète Ésaïe, chapitre 23. Il y en a beaucoup parmi nous qui connaissent la ville de Marseille. Il y en a qui ont habité peut-être ou qui vont souvent à Marseille. On a des Marseillais. Allez l'OM. Et une chose que peut-être vous ne savez pas, et peut-être vous ne le savez pas, je ne le savais pas moi-même, jusqu'à ce que je recherche un peu ce qui est dit sur Internet sur les Phéniciens. Marseille, son nom grec, c'est Massilia. Et on sait que c'était un comptoir économique grec, mais aussi... L'histoire nous dit que c'était les Phéniciens qui ont sans doute établi ce comptoir commercial les premiers. Et il y a un professeur à la Sorbonne qui n'est pas, je crois, spécialement croyant, mais qui a une théorie intéressante sur l'origine du mot Marseille, du mot Massilia. Et... il dit que ça demande à être confirmé, mais il pense, avec plusieurs linguistes, qu'en fait, Massilia, ça veut dire protéger. Massil, en langue indo-européenne, c'est la protection. Massil, et puis Massil, Yahweh, Yahovah Shua. Il y a une théorie qui dit que le nom, en fait, ce serait des Juifs avec des Phéniciens qui auraient établi le comptoir et que cette ville aurait été protégée par Dieu, pas par n'importe quel Dieu, le vrai Dieu de la Bible, par Yahweh, par Jéhovah. Si vous connaissez des pasteurs à Marseille, il faut leur dire cette histoire. Ça peut être un grand encouragement de savoir qu'en fait, malgré l'incrédulité qui doit régner là-bas comme partout en France, en fait, Dieu a déjà imprimé son nom dans l'OM. Oh, allez l'OM ! Ah, vous pouvez, si vous avez des amis qui sont supporters de l'OM, expliquer pourquoi il y a le mot M et qu'il y a le mot Ya, qui est le Dieu que vous adorez. Il protégeait déjà l'établissement de ce comptoir. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on va parler d'une prophétie contre Tyr et Sidon ce matin. On va lire ensemble. Verset 1 du chapitre 23 du prophète Ésaïe. Menace sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim ou de Chypre que cela leur fut révélé. Soyez muets d'effroi, habitants de l'île, que comblaient les marchands de Sidon parcourant la mer. Sur les vastes eaux, les céréales du fleuve, la moisson du Nil était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois dans la honte, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai pas eu de douleur, je n'ai pas accouché, je n'ai pas fait grandir de jeunes gens ni élevé de jeunes filles. Quand la nouvelle arrivera en Égypte, on tremblera comme Tyr a tremblé à cette nouvelle. Passez vers Tarsis, lamentez-vous, habitants de l'île. Est-ce là votre ville où l'on s'amuse? Elle avait une origine antique, et ses pieds la mènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient honorés de toute la terre? C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous ceux qui sont honorés sur terre. Traverse ton pays pareil au Nil, fille de Tarsis, plus de joug. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné à Canaan de détruire ses places fortes, il a dit « Tu ne continueras plus à t'amuser ». Toi qui as été violentée, vierge, fille de Sidon, lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Voici le pays des Chaldéens qui n'était pas un peuple. Les Assyriens l'ont destiné aux habitants du désert. Ils élèvent des tours de garde. Ils renversent les donjons de Tyr. Ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite. En ce jour-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que durent les jours d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends une cithare, fais le tour de la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, multiplie tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes du monde sur la face de la terre. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain sera pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture qui rassasie et des vêtements magnifiques. Et là, avec ce chapitre, en fait, on termine une série de prophéties, de jugements contre les nations païennes. Il est fait aussi référence aux deux royaumes du nord et du sud qui ont succédé, qui ont suivi le règne de Salomon, le royaume du nord, capitale Samarie, ou appelé des fois Israël, et le royaume du sud, capitale Jérusalem, appelé souvent Juda. Ces deux nations se sont disputées, se sont séparées. Dieu a fait venir les Assyriens en 721 pour détruire le royaume du nord et les emmener en exil. Plus tard, vers l'an 571, c'est le royaume du sud, Juda, qui sera à son tour conquis par les Babyloniens pour être exilé à Babylone. Mais là, on verra la semaine prochaine, à partir du chapitre 24, et les chapitres 24 et 25, on appelle ces, et 26 aussi, on appelle des fois ces chapitres qui vont suivre, l'Apocalypse d'Ésaïe. Parce qu'en fait, on voit une description qui rejoint la description du jugement de Dieu sur la terre. La période de la grande tribulation dont il est question dans Matthieu 24 et 25, dans l'Apocalypse, dans le prophète Daniel, etc. C'est surprenant de voir qu'en fait il y a une description très précise que nous entamerons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais là, nous terminons des menaces contre différentes nations païennes que Dieu utilise pour reprendre son peuple. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que même avec ces nations païennes, Dieu veut montrer sa grâce et son amour. Il les utilise pour reprendre son peuple, il les châtie, mais on voit toujours sa grâce. À la fin de ce chapitre, on va y revenir. C'est donc une prophétie sur deux villes, Tyr et Sidon, des villes côtières de la Palestine. Et ces deux villes, c'était les villes des Phéniciens, qui ont été fondées par les Phéniciens, qui sont à l'origine du langage hébreu, qui a donné le langage latin, le langage que nous utilisons, l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, peut remonter, on peut voir la forme des lettres jusqu'à l'alphabet phénicien. Et les Phéniciens, c'était un peuple marin. C'est étonnant de voir qu'en fait, hier sur l'autoroute, on a vu des voitures nous dépasser, c'était des bateaux suisses. Et on se dit, mais ils n'ont pas de marine, les Suisses. Mais en fait, il y a une marine suisse sur le lac Léman. Et des fois, par contre, il n'y a pas vraiment de marine corse. La Corse est une île. On penserait qu'étant une île, c'est vrai qu'il y a quelques pêcheurs, mais ce n'est pas des gens qui ont conquis la Méditerranée. Et de même, Israël, qui avait des accès sur la Méditerranée n'a jamais été une puissance maritime. L'Angleterre, qui est une île, a été une puissance maritime dominante même. Mais c'est surprenant de voir que c'était les Phéniciens qui, eux, étaient un peuple de marins. Je ne sais pas si c'est dans les gènes, si c'est dans l'histoire, si c'est dans le fait qu'ils avaient accès à des forêts du Liban pour fabriquer une flotte de navires. Mais là, il est question justement de ces navires de Tarsis. Alors le mot Tarsis, on n'est jamais trop sûr, il y a un doute. Certains pensent que c'est l'Espagne, d'autres pensent que c'est une ville du Moyen-Orient. Mais l'idée, c'est que les marins de Tyr et Sidon, ces nations maritimes, apprennent que la ville de Tyr a été détruite. Elle est détruite, il n'y a plus de maisons, plus d'entrées. Et ça, ils ont reçu la nouvelle par Kittim. Là, il n'y a pas de doute, on sait que Kittim, c'est la Chypre, l'île de Chypre actuelle, qui est divisée entre une population grecque et une population turque. Il y avait des représentants de Calvary Chapel à Chypre, à la conférence. Soyez muets d'effroi, que vous soyez complètement affolés. Il y avait donc ce peuple de marins était devenu par la force des choses un peuple de commerçants. Et ils étaient ceux qui faisaient bouger les marchandises dans ce monde antique. Ils prenaient les moissons du Nil pour les faire venir au Moyen-Orient. Les céréales du fleuve, le fleuve c'est le Nil sans doute, qui était à l'époque, on l'a dit, très prospère, très fertile, une vallée très fertile. Et c'est résumé dans « Elle était le marché des nations » à la fin du verset 3. Et on va voir plus loin que, en fait, il y a des choses qui sont dites sur Tyr, et donc sur Sidon, qui était la deuxième ville de ce pays des Phéniciens, qui ressemble à ce qui est dit sur Babylone. Babylone, c'était aussi la ville du commerce. Dans l'Apocalypse, il y a deux types de villes de Babylone. Il y a la Babylone religieuse, et puis il y a la Babylone commerciale. On en parlera quand on abordera l'Apocalypse d'Ésaïe. Ils étaient devenus très riches par ce commerce. Et Ésaïe fait dire ce que pense Dieu. Lamentez-vous, habitants de l'île. Tyr avait deux parties. Il y avait une partie construite sur une île et une partie construite sur la terre ferme. Et l'histoire nous dit qu'en fait, l'île a été complètement rasée, conformément à la prophétie. C'est une expression qui ne devrait plus nous surprendre, conformément à la prophétie. Parce que les prophéties de Dieu, encore une fois, ce n'est pas des supputations, ce n'est pas des prédictions horoscopes, des prédictions de devins ou de charlatans. Ce sont des vérités que Dieu nous révèle avant qu'elles ne se passent. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, il est en dehors du temps, il connaît le passé, le présent, le futur, comme pour nous, on voit ce qui est en face de nous. Et ces prophéties, elles se réalisent à la lettre. Soit elles se sont réalisées dans le passé, partiellement, il y a une réalisation qui nous attend future, souvent une réalisation à la fin des temps. Soit elle ne s'est pas encore réalisée, mais on peut être sûr, on peut mettre sa main au feu. C'est un peu bête, mais c'est une façon de parler. Dire qu'on est tellement sûr qu'on va être guéri, que ces choses vont se réaliser. Et on va le voir encore à la fin de ce passage, brièvement. C'est Dieu se fâche contre cette ville. Une chose qui met Dieu en colère, c'est l'hypocrisie, mais c'est surtout l'orgueil. Dans le passage d'Ésaïe 14, on a vu l'orgueil du roi de Babylone. Dans Ézéchiel 2 x 14, 28, hein, Ézéchiel 28, on voit aussi une prophétie contre Tyr. Et à chaque fois, c'est Satan qui anime l'esprit de la ville, qui... Le roi de Tyr, le roi de Babylone sont en fait des préfigurations de Satan, ou des incarnations, ou des types de Satan. Satan, lui, est un ange déchu, personnage réel, qui cherche à entraîner à sa suite le plus grand nombre de personnes. Lui, ce qu'il cherche, c'est l'adoration. C'est son orgueil qu'il avait fait tomber. Et l'orgueil, encore une fois, c'est peut-être le pire des péchés. Parce qu'il nous aliène de tous. L'homme orgueilleux, il n'a pas d'amis. La femme orgueilleuse, elle ne va pas avoir d'amis, elle ne va pas pouvoir compatir avec les autres parce qu'elle se croira supérieure. J'ai partagé que il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a fait tomber dans une poubelle et que ce verset m'est venu à l'esprit que l'orgueil précédait la chute. Et au fond de ma poubelle, j'étais un peu sonné parce que je m'étais cogné la tête. J'étais bien, j'aurais pu passer un bon moment là-bas dedans parce que j'ai pris un sacré coup. Et le Seigneur m'a fait que je m'érafle trois des doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éraflures sont toujours là, même après. C'était le soir de l'Assemblée Générale, donc c'était le 12 juin. Plus de 2 mois et demi après, ces marques sont là. Et je me demande peut-être si le Seigneur va me les faire garder. Et ça, c'était une façon pour moi de m'interpeller, pour montrer l'orgueil qu'il y avait dans mon cœur. On est tous à un degré ou à un autre aveugle de nos péchés. Par contre, notre propre péché, lorsqu'on le voit chez les autres, il nous dégoûte. On est très sensible à nos péchés chez les autres. Et lorsque je vois une personne orgueilleuse, je dis « Ah !» Et en fait, le Seigneur dit « Regarde ton cœur. » Et là, l'orgueil de cette ville de Tyr qui se pensait être la dispensatrice des couronnes. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient et défaisaient les rois. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le pouvoir de l'argent. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde matériel où celui qui a l'or peut faire les règles. On dit des fois que Jésus qui disait « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent, faites-leur ce que vous voulez qu'ils leur fassent », on appelle ça des fois la règle d'or. Et il y a des gens cyniques qui disent que la règle d'or, en fait, c'est que celui qui a l'or, il fait les règles. Et c'est vrai que si vous êtes riche, vous pouvez changer les règles, vous pouvez changer les rois, vous pouvez changer la loi. On voit toute la corruption, c'est exactement ça à l'œuvre. Et donc ces gens qui se disaient riches, les marchands étaient les princes. Pour être responsable, pour avoir une position, un statut social, il n'y avait pas besoin d'avoir une équité, une intégrité morale, de faire du bien, d'avoir des principes d'intégrité, de sainteté, d'équilibre, de sagesse. Tout ce qu'il suffisait d'avoir, c'était du fric. Et on vit dans un monde où le fric règne. On vit dans un monde où on peut inonder les ondes, on peut inonder les écrans de cinéma par des horreurs parce que ces gens-là ont du fric. Et quelque part, Dieu décide de détruire cette ville de commerce, cette première Babylone en quelque sorte, ou cette autre Babylone, Babylone commerciale, en les humiliant, en les renversant, en les faisant détruire par des par des armées étrangères. L'Éternel des armées a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous ceux qui sont honorés sur terre. Et c'est intéressant, dans les deux dernières années, on a vu la puissance économique de certains pays, la puissance économique du monde occidental, vaciller pour des raisons d'immoralité, des prêts accordés alors qu'ils ne devaient pas être accordés, parce qu'on voulait encourager la convoitise, l'appât du gain, l'appât des richesses. On vit dans un monde où les richesses ont une telle puissance sur nous. Si on est honnête avec nous-mêmes, on veut avoir ce que le voisin a. J'ai vu plusieurs pasteurs sortir leur iPhone à la conférence. Il a fallu que l'esprit me reprenne pour ne pas être envieux. Sincèrement. Et je pense qu'on... Peut-être je suis vraiment un grand pécheur et vous êtes épargnés. Mais est-ce qu'au fond de vous, il n'y a pas quelque part cette graine de convoitise? On veut ce que l'autre a. C'est un des ressorts de l'économie moderne, c'est un des ressorts de la publicité. Regardez ce que l'autre a, vous aussi vous y avez droit. Vous aussi vous avez le droit de manger chez McDonald's. Waouh, ça va, c'est pas trop cher un Happy Meal, un repas heureux. L'Éternel étend sa main sur la mer, il fait trembler les royaumes, il ordonne à Canaan de détruire les places fortes. Il y a des places fortes physiques, des places fortes géographiques, il y a des pays où l'argent est roi, des pays où l'immoralité règne, encore plus que peut-être chez nous. Il y a des places fortes dans nos cœurs, c'est cette envie, cette désir d'argent, désir de possession. Dieu dit, tu ne continueras plus à t'amuser. Souvent, même parmi les chrétiens, notre motivation principale, c'est comment on peut s'amuser. Et encore une fois, il faut de l'équilibre. Le Seigneur nous aime, il nous donne de bonnes choses. Il y a des jeux, des plaisirs qu'il approuve. Mais encore une fois, si toute notre vie consiste à rechercher, à nous amuser, l'hiver c'est le snowboard, l'été c'est le ski nautique ou c'est le surf. Des pasteurs ont confessé ça, c'est pour ça que je partage ces choses. Mais ces choses peuvent devenir des idoles dans nos vies. Et la dernière nuit... La dernière soirée, il y avait un message par le couple du pasteur responsable de cette conférence avec sa femme, qui était présenté de façon humoristique, mais c'était très instructif. Et à un moment, le pasteur a dit qu'en fait, nous les hommes, il faut qu'on grandisse. Parce qu'on garde notre mentalité de gamin, et au lieu d'investir dans la vie de nos familles, de nos enfants, on est toujours prêt à partir faire un voyage pour aller faire du surf. On ne fait pas trop de surf ici, mais on va faire du ski. Et quelque part, c'est, encore une fois, ce n'est pas pour condamner, être légaliste, dire qu'on ne peut pas avoir des moments de plaisir. Mais est-ce qu'on grandit? Est-ce que le moteur de notre vie, c'est de bosser pendant toute une année pour avoir 5 semaines ou 6 semaines ou 7 semaines avec les ponts, les aqueducs français pour pouvoir aller s'éclater, s'amuser. Encore une fois, il est bon de se reposer, d'avoir du ressourcement, mais tu ne continueras plus à t'amuser. Il y a des fois, le Seigneur en a marre, pour parler vulgairement, de voir ces chrétiens qui ne cherchent qu'à passer du temps à s'amuser. Et là, il explique que cette fille de Sidon, ce pays des Phéniciens, de Tyr et de Sidon, va être violentée. Elle va plus avoir de repos. Il part du pays des Chaldéens. C'est les Assyriens qui vont faire cela. Ils vont détruire la forteresse. Et puis il y a cette prophétie qui dit qu'en Verset 15, en ce jour-là, Tyr tombera dans l'oubli pendant 70 ans, ce que durent les jours d'un roi. En général, un roi, c'était 40 ans de règne, mais peut-être 70 ans de vie, on l'a vu déjà dans d'autres passages. Et puis, il est question d'une chanson qui devait être connue, la chanson qui parlait d'une prostituée. Et ça, il s'agit d'une vieille prostituée qui va essayer de retourner à un salaire impur. La prostitution, c'est souvent pris comme un exemple, un type de l'idolâtrie, parce que comme l'immoralité sexuelle, comme la prostitution, elle devient quelque chose qui consume la personne. L'adultère, la prostitution, c'est un terme qui désigne ceux qui se détournent du vrai Dieu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de tragique dans la prostitution, mais il y a quelque chose encore plus horrible, plus tragique, lorsqu'on voit la prostitution d'une femme âgée. Et on vit malheureusement dans un pays où la prostitution est visible au grand jour. Pas qu'il faille la cacher, mais elle est là, elle est illégale, mais elle est tolérée. On voit beaucoup de jeunes filles, souvent des jeunes filles des pays de l'Est, qui viennent ici, qui sont attirées ici pour l'appât, pour la promesse d'un travail, elles qui vivent difficilement dans certains pays de l'Est. Et les proxénètes leur retirent leurs papiers et les forcent à travailler avec leur corps, à se déshonorer, à devenir abject dans leur vie, à perdre toute considération pour elles-mêmes. Mais je dois dire, des fois, au coin des rues, à Nice, on voit des personnes âgées, des femmes âgées qui se livrent à la prostitution. Et quelque part, ça fait mal. Toute la prostitution est terrible. Mais de voir une personne âgée vendre son corps pour un peu d'argent, cette ville, elle va se prostituer. C'est comme Babylone. Tyr était des fois appelé Babylone sur mer. Babylone auprès de la mer. C'était un exemple du commerce qui devient une idole et qui pourrit tout sur son passage. Et puis, comme dans la Bible, on en vient au mais de Dieu, M-A-I-S. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel et ne seront ni entassés ni conservés. Son gain sera pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture qui rassasie et des vêtements magnifiques. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu merci. Il peut racheter ce qui a été corrompu. Et là, en fait, il rachète les ressources qui auront été accumulées par Babylone. Alors là, on peut penser que c'était à l'époque historique où ces choses se sont passées, au bout de 70 ans, mais on peut facilement, et on le verra par la suite, passer à la fin des temps, ce qui devient évident dans la suite du passage. Encore une fois, dans vos Bibles, vous pensez que ce n'est pas la même idée, parce qu'il y a un nouveau numéro de chapitre. Il y a un nouveau titre, et même peut-être un grand titre pour plusieurs chapitres. Et on a l'impression que, bon, ça c'est fini, c'est autre chose. Mais sachez que les textes antiques, tout était écrit sans paragraphe, sans virgule, sans point. Et les séparations en versets, en chapitres, c'est quelque chose qui a été ajouté bien plus tard pour permettre de référencer, de savoir de quel passage on parle. Au lieu de dire verset 18 du chapitre 23, il faudrait dire, bon, vous comptez 125 pages, et c'est un peu à 3 cm du bas. Donc ces choses-là, c'est pour tout ça pour dire que c'est la même pensée qui va continuer la semaine prochaine lorsqu'il s'agira de toute évidence de la fin des temps. Donc il y a un glissement de la période historique à la période de la fin des temps. Et Dieu dit qu'en fait, les choses qui ont été accumulées, les richesses du monde, vont servir au royaume de Dieu. Ça me rappelle l'anecdote où il y avait le grand évangéliste Del Moody qui a fait une œuvre remarquable au 19e siècle en Amérique, à Chicago. Il a établi, fin du 19e et début du 20e siècle, il a établi une école biblique qui existe à ce jour, qui a produit beaucoup de documents, de ressources sérieuses sur la foi chrétienne. Et cet homme était entouré d'une équipe d'assistants qui lui avaient dit: on est embêté parce qu'on a reçu un chèque de 100 000 dollars d'un des anciens de Al Capone. Ou, je ne sais plus si c'était Al Capone, mais c'était un chef de la mafia qui avait fait un chèque pour l'œuvre chrétienne de Del Moody. Et donc, ses assistants lui disaient, on pense que tu vas être d'accord avec nous qu'on va déchirer ce chèque et même pas, on veut pas toucher la monnaie du diable. Et Del Moody a dit, non, je vais l'endosser, on va utiliser cet argent. Le diable l'a utilisé trop longtemps, maintenant c'est Dieu qui va l'utiliser. Dieu peut utiliser les mauvaises choses du monde pour sa propre gloire, pour le bien de son royaume. Et nous allons régner avec Dieu à la fin des temps. On ne va pas se reposer. On aura plein d'énergie. Les choses qu'on rencontre aujourd'hui, les épreuves, tout ça, c'est des choses que Dieu, qui peuvent nous sembler venir du monde, Dieu va les utiliser, ça forme notre caractère pour qu'on ait les capacités à gérer le monde pendant la période du millénium. C'est une façon dont Dieu renverse les choses. Et on a entendu aussi dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y a eu une église très forte à Tyr. Et peut-être que c'est pour ça que Marseille s'appelle Marseille. Que ces Phéniciens étaient venus à la fois en Yah. Ils voulaient que Yah les massile. Est-ce que vous voulez que Yah vous massile? Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse? C'est son désir. Tout ce qu'il veut, c'est que vous lui ouvriez votre cœur, que vous lui disiez: « Oui, Seigneur, je veux vivre pour toi ».